Écoutez les questions de Sophie avec Sophie Stanquet.
Question de Sophie aujourd'hui, 29 septembre. Pourquoi et comment retourner aux études à l'âge adulte? On se la pose tous. Que du bonheur, par contre, je dirais. Moi, pour l'avoir fait pour ma maîtrise, puis j'ai un doctorat dans les cartons, comme on dit, qui est là. Donc, c'est notre section très, très importante parce que, oui, on se pose la question, ben, à 40 ans, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Pour nous en parler, Madame Lucie Dubé de Midi 40, un service de transition. Elle travaille là-dedans, transition et gestion de carrière, spécialisée en recherche d'emploi pour les 40 ans et plus. Bonjour, Madame Dubé.
Bien le bonjour.
Alors, je dis du bonheur parce que je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est pas évident. Vous suivez ces gens-là au quotidien. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est agréable de le faire? Est-ce que c'est un pas qu'on devrait faire tous à l'âge de 40 ans?
Je crois que c'est faisable. On a plusieurs personnes qui le font, qui font le pas. Cependant, j'aurais quelques conseils peut-être à donner aux personnes qui voudraient faire une transition à 40, à 50 ans, à 60 ans. Je crois que parce qu'ici, on parle de retour aux études, mais souvent, ça va être lors d'une perte d'emploi parce que nous, on reçoit les gens lorsqu'ils perdent leur emploi.
C'est ça.
Alors, lors d'une perte d'emploi, c'est l'occasion, effectivement, de revisiter...
De brasser la cabane, comme on dit.
De brasser la cabane, c'est très
bien. Parce que ça brasse dans la cabane. Quand on n'a plus de travail, ça brasse en maudit.
Oui, c'est un choc au départ. Oui. Et la personne, en fait, doit vivre un deuil par rapport à sa position professionnelle qu'elle vient de laisser ou que l'employeur s'est départi d'elle. Alors, c'est vraiment l'occasion, je dirais, nous, ce qu'on fait, c'est des bilans. On fait un bilan de carrière, un bilan professionnel avec la personne. Avant de décider quoi que ce soit, c'est important de revoir nos choix. C'est important de revoir nos priorités, de faire un bilan sur... de nommer nos compétences aujourd'hui et quelles sont nos compétences préférées et qu'est-ce qu'on veut faire avec. L'option de changer d'emploi peut être une option. L'option de retour aux études est aussi une option. Cependant, je dirais que se réorienter à 50 ans ou se réorienter à 30 ans, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la...
Non,
l'horizon n'est pas le même.
Donc, c'est plus difficile. J'en profite pour vous lire. Je reçois beaucoup de tweets sur notre question de Sophie. J'adore ça, mais pas seulement parce que les gens sont à l'écoute, mais c'est parce que ça nous nourrit. Il y a Ginette Léger qui dit « Bonne émission. Oui, je recommencerai ce processus. D'ailleurs, je prévois le faire. J'en suis à me renseigner sur les coûts. » J'ai aussi Lucie qui est retournée aux études à l'âge de 55 ans pour être traductrice. Donc, il y a beaucoup de gens qui... C'est vrai, là. À 50 ans, il y a beaucoup de monde qui retourne, qui se pose des questions, qui vont écouter l'émission, qui vont dire, ben oui, je suis obligée, soit dans l'obligation ou une réorientation carrément de carrière. Mais l'obligation, c'est dû à la perte d'emploi. Et vous dites, c'est pas la même chose qu'à 30 ans. Quelles sont les difficultés à 50 ans, par exemple? Ces gens-là qui viennent m'écrire, et ça, c'est du concret, là.
Je dirais qu'à 30 ans, on a plus de temps devant soi. À 50, on en a moins. L'horizon professionnel, même si maintenant on va prendre la retraite beaucoup plus tard qu'on prenait avant, je pense qu'on va travailler plus longtemps que ce qui nous était promis de partir à 55 ans.
Ouais, ça, c'est faux, ça.
C'est la fausse publicité. On est rendu là, puis on voit bien que c'est pour une très, très petite portion de personnes. Mais quand même, à 50 ans, le temps est plus limité. On cherche à travailler plus dans nos compétences préférées. La transition puis la réorientation se fait plus à partir, je dirais, de ces compétences transférables. Il y avait une de vos invitées, Mme Martin, tout à l'heure, qui disait que à cause de nos obligations... on a une maison à payer, on a des enfants, soit encore aux études. Donc, le choix d'aller faire un vrai retour aux études à temps plein, nous, ce n'est pas ce qu'on voit dans nos... C'est pas ce qu'on voit. On a quand même 500 clients par année. Une petite portion le font. Cependant, on va aller mettre à jour ses compétences. On va changer de secteur d'activité. On va procéder à un transfert de compétences vers un autre métier. Le bilan sert à ça. Faire un bilan professionnel, c'est se re-questionner sur c'est quoi mes rêves, moi, que j'avais, que j'ai pas réalisé. J'ai 50 ans, j'ai 45 ans, j'ai 55 ans. Comment je veux vivre le reste de ma vie professionnelle? Parce que c'est important, on veut avoir du plaisir à travailler. Et ça, c'est le, je dirais que c'est le cœur de la motivation. On veut continuer à aimer ce qu'on fait. Et souvent, le changement va se faire à ce niveau-là, mais pas nécessairement un changement drastique. Souvent, ça va être changement de compétences, transition mm-hmm. vers un autre type d'emploi, mais avec les compétences qu'on a déjà exercées, qu'on a déjà mis à profit dans le métier où on faisait. Mais c'est
alors
souvent
c'est,
l'occasion.
C'est pas le 4 ans, c'est une formation... pour compléter une formation ou s'orienter, mais ce n'est pas le fameux 4 ans d'études, là, en général, c'est ça?
Pas nécessairement. Ouais. Ça peut être une formation d'appoint. Ça peut être ce qu'on encourage les gens à faire, les gens qui veulent vraiment changer de métier, retourner mm-hmm. aux études. Moi, je me dis, si vous voulez, par exemple, aller comme traductrice, essayez de voir dans votre entourage qui fait ce métier-là ou qui connaît quelqu'un qui mm-hmm. fait ce métier-là mm-hmm. et allez parler avec elle. Allez voir dans son milieu de travail qu'est-ce qu'elle fait, mm-hmm. comment elle le fait, est-ce que ça nous plaît. Si vous êtes une personne plus extravertie, plus qui aime rencontrer des gens, le travail de traducteur est un travail plus vraiment seul. On travaille
oui,
seul.
Un travail de moine.
On voit moins de gens.
Oui,
on est,
comme les
donc,
auteurs.
Donc, il faut aller vraiment voir dans la réalité avant d'entreprendre des études parce que après avoir été rencontrer des gens qui le font, parfois on se dit finalement c'est pas tout à fait ça. Peut-être que je pourrais aller dans un autre créneau, mais je pense que ça me convient pas tout à fait parce que c'est triste d'aller faire des études et après se rendre compte sur le marché du travail.
Que c'était
finalement,
pas pour nous.
Je n'aime pas ça.
Mais il y a aussi une remise en question qui est très, très importante, c'est-à-dire on se cherche aussi, même si ce n'est pas la crise d'adolescence. Là. Je veux dire, à 40 ans, on commence, il y a une espèce de crise d'adolescence aussi à l'âge adulte où finalement, soit c'est l'employeur qui nous a montré la porte et qui donne une occasion de se renouveler, de repartir sur une autre base, mais... Est-ce qu'il vous arrive parfois que quand vous rencontrez des gens, vous dites, bon, mais écoutez, je pense que là, c'est beau, là, mais ça ne sera pas pour vous. Vous allez être déçus ou ça prend trop de temps ou dans ce domaine-là, il n'y a vraiment pas de débouché. Parce que vous devez le dire, j'imagine, quand vous orientez les gens.
C'est-à-dire qu'on ne le dit peut-être pas tout à fait de cette manière-là. Nous, notre rôle, c'est de vraiment décrire à la personne le type de travail. Et on voit la personnalité, on leur fait passer des tests psychométriques, on voit la personnalité des gens, sa personnalité au travail, on voit ses compétences et on essaie de l'amener dans un champ de compétences où elle va avoir du bonheur. Pas, parce qu'en fait, on peut être très performant sur le marché du travail dans nos compétences dans lesquelles on est bon. Mm-hmm. Si... l'exemple que je vous donnais tantôt, si je fais un travail, je suis quelqu'un de très relationnel, puis je m'en vais dans un travail de comptabilité où je vais être seule dans mon bureau toute la journée, peut-être que ça ne sera peut-être pas une bonne idée. dans le fond, on essaie de faire transiter les gens vers des professions où elles auront du bonheur à poursuivre et où elles vont vivre des compétences.
Alors, je veux pas de chiffres, mais je veux quand même que vous me disiez en ce moment comment on est au Québec. Est-ce qu'il y a beaucoup... Vous avez beaucoup de clientèle, vous avez beaucoup de gens de 40-50 ans qui décident de retourner aux études?
Un vrai retour aux études, par exemple, de dire « change complètement de métier », une très faible...
Okay.
Parfois, ils arrivent avec cette intention-là, oui. Mais en faisant le bilan, en se posant des questions, en revoyant leurs priorités. Et nous, on essaie de voir avec eux un projet d'emploi vraiment réaliste et réalisable.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est eux qui le décident. Mais je vous dirais qu'après 55 ans, il y a une portion qui vont... surtout ceux qui ont rêvé d'être travailleurs autonomes, de partir leur propre entreprise, de dire, moi, j'ai toujours eu l'intention de... Là, à ce moment-là, quand on regarde le projet, c'est réaliste, on va leur donner des outils pour qu'ils puissent aller plus loin, puis vraiment aller faire leur vérification pour aller plus loin, parce que c'est important l'exploration.
Ouais.
Quand on part notre emploi, d'aller explorer mes possibilités, puis après, je suis plus en mesure de rechoisir.
Au début, j'imagine que quand ils perdent, c'est normal, il y a comme un découragement, puis après, ils voient la lumière au bout du tunnel?
Bien sûr, parce qu'au début, c'est sûr que souvent on se sent victime, mais on a deux choix, en fait. Soit que on est victime ou on reste dans cet état-là, où on se dit, ben, comment je peux profiter de cette opportunité de revoir ma vie professionnelle et peut-être de rechoisir quelque chose qui va plus correspondre à mes besoins aujourd'hui, en ce moment présent. Parce que on travaille au centre-ville de Montréal. Il y a des gens qui disent, moi, je ne veux plus voyager, je veux travailler plus près. Ouais. Je veux peut-être moins de salaire, mais une qualité de vie meilleure. Uh-huh. Je pense que la qualité de vie, à un moment donné, ça devient une priorité.
Mais est-ce qu'à ces âges-là, on se dit, on sait plus ce qu'on ne veut pas que ce qu'on veut?
Oui, on commence par ce qu'on ne veut pas. Et après, on choisit ce qu'on veut. Mais vraiment, on a beaucoup de plaisir à travailler avec les gens de 45 ans et plus.
Merci beaucoup, Mme Dupé.
Ça m'a fait plaisir. Merci.
Alors, toujours dans notre 60 minutes de spécialiste, je suis très contente d'avoir des gens en studio, ça donne une belle énergie. Et donc, il s'est déplacé, je ne dis pas, c'est pareil, parce qu'au téléphone, c'est aussi bon, mais en studio, c'est encore meilleur. Alors, c'est Franck Bouchard, il est du comité d'adaptation de la main-d'œuvre du CAMU pour personnes handicapées. On est vraiment rendu à la section « Le retour aux études avec une limitation fonctionnelle ». Bonjour, M. Bouchard.
Bonjour, Mme Sankey.
Alors, on a vu au début de l'émission que ce n'est pas facile, là, on vient de traiter les 40-50 ans. C'est pas évident le retour aux études pour raccrocher. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a une limitation et on décide de retourner aux études?
Bien, souvent, j'imagine, la motivation première des personnes qui sont handicapées, qui ont des limitations, retourner aux études, c'est d'améliorer peut-être leur sort. On voit souvent que c'est des personnes qui sont peut-être genre à l'aide sociale et bon, elles sont peut-être là depuis quelques années, elles ont des revenus, mais elles ne se sentent peut-être pas nécessairement à la fois sentiment d'être plus ou moins utile, donc désir de faire quelque chose, d'aller vers, de donner quelque chose au niveau de la société, d'intégrer le travail et évidemment d'améliorer leur sort au niveau économique, ce faisant donc allant chercher un emploi qui va leur permettre de sortir de l'aide sociale, d'améliorer leur sort. Donc c'est peut-être la motivation qui peuvent les entretenir, mais en même temps cette motivation-là, elle peut être aussi contrecarrée par le fait que bon, je souhaite aller travailler, mais est-ce qu'il y aura de la place pour moi sur le marché de l'emploi? Parce que si la personne a des limitations, les vraies choses, c'est pas toujours évident que les employeurs vont vouloir nous faire une place. Quoique, si on va au retour aux études, on acquiert des compétences qu'on n'avait pas et qui vont permettre d'offrir davantage à un employeur. Bon, j'ai un diplôme, j'ai des compétences à mettre à profit. C'est sûr que ça donne davantage de chances de son côté. Mais il n'en demeure pas moins que les employeurs... Il y a encore du travail à faire pour ouvrir les portes des entreprises, pour permettre aux personnes handicapées de se trouver de l'emploi, de mettre à profit ces compétences-là qu'elles vont chercher. Donc ça, ça peut faire partie du questionnement que la personne peut avoir si elle désire faire un retour aux études. Est-ce qu'il y aura une place pour moi sur le marché du travail? Deuxièmement, ben c'est un saut aussi dans l'inconnu, dans le sens où même si elles sont à l'aide sociale, elles ont un revenu garanti, même s'il est plutôt minime, on n'est pas très riche. Mais bon, il y a toujours vaut mieux un tien que deux, tu l'auras, comme on dit. Mm-hmm. Donc,
il y a une espèce de sécurité, même si c'est pas beaucoup, là, on en s'entend. Il y a une sécurité financière à ce niveau-là, donc il faut jongler avec ça.
Il faut jongler avec ça, effectivement. Est-ce que le choix de retourner aux études va me permettre d'améliorer vraiment mon sort? Et deuxièmement aussi, le fait que si je retourne aux études, est-ce que je vais devoir quitter l'aide sociale. Si je m'inscris en formation universitaire, collégiale, est-ce que je vais aller faire des demandes au niveau de l'aide financière aux études? Bon, est-ce que on va peut-être me donner un soutien financier, mais ça sera peut-être pas suffisant pour combler mes besoins, pour combler ce que j'ai. Donc, il y a aussi cet aspect-là.
Et qu'en est-il? Est-ce que la personne est obligée de se retirer de l'aide sociale?
Ben, ça peut dépendre. Il y a toutes sortes de cas de figure possibles. Si la personne est autorisée, si c'est une personne qui est à l'aide sociale, bon, avec Emploi Québec, elle peut être autorisée à aller faire de la formation. Mm-hmm. On parle plus de formation pour peut-être compléter un secondaire 5, une formation professionnelle, peut-être une technique au collégial. Donc, ça, c'est une avenue. Il y a aussi d'autres avenues possibles, toujours avec le ministère de l'Emploi, qui est offert sur des programmes qui permettent aux personnes de demeurer à la fois sur l'aide sociale et d'avoir un soutien aussi de l'aide financière aux études pour aller faire des études souvent peut-être plus avancées, collégiales, universitaires. Donc, il y a quand même des avenues, mais ce n'est pas nécessairement garanti qu'Emploi Québec ou le ministère va vous autoriser à participer à ce type de programme-là. Okay. Donc, il y a quand même aussi toutes sortes de choses à jongler pour les personnes, à dire, bon, si je fais ce choix-là de retourner aux études, est-ce que je vais avoir un soutien ou non financier qui va me permettre de le faire?
Bon, il y a des gens qui ont eu des limitations fonctionnelles à la naissance, et puis bon, c'est comme ça. Mais il y a d'autres cas de figure où, suite à un accident, la personne n'a plus l'usage de ses jambes. Donc là, la vie change, le temps passe aussi, parce qu'avant de penser de grandir intellectuellement, il faut s'occuper de ce corps qui n'est plus celui qu'il était. Et donc, les années passent. Et il y a une double difficulté, je veux dire, déjà retrouver un corps qui n'est plus le sien en chaise roulante, les hôpitaux, les nombreuses opérations, il y a le temps qui passe, les études prennent le bord, c'est difficile. Est-ce que ça joue parce que le temps avance, dépendamment de ce que les gens ont eu? J'imagine qu'il y a une période de découragement, puis se dire, bon, ben, ça passe en dernier. Est-ce que souvent les gens arrêtent d'étudier quand
il y a... Effectivement, ça peut être effectivement une raison de décrocher, si on peut dire, d'arrêter des études, parce que c'est trop difficile, c'est trop demandant. Comme vous dites, bon, toute l'hospitalisation, tout ça, est-ce que ça fait que le projet d'études est mis de côté parce qu'on s'occupe de soi? Mm-hmm. Et après un certain nombre d'années, est-ce qu'on a envie de retourner aux études ce contexte-là? Ouais. Et bon, il faut se remotiver, il faut trouver une motivation, peut-être faire un deuil aussi de ce qu'on voulait faire peut-être au départ en termes d'études, parce que ça correspond, notre condition ne permet plus de faire, peut-être pas de faire les études, mais dire ces études-là, le but c'était de faire un travail X. Est-ce que là, c'est plus possible à cause de... Mais ça convient, est-ce que ça convient encore? Donc, il y a tout un deuil à faire, et de se dire, bon, dans quoi je vais m'orienter, dans quoi je vais aller? Et ça aussi, c'est pour n'importe quelle personne, même. Elle va toujours... Ça ajoute une difficulté supplémentaire. Dans quoi je vais m'orienter aussi par rapport à ma condition, mes capacités? Est-ce que je vais être capable de faire le travail? Est-ce que je vais être capable de faire les études? Est-ce que je vais être capable de faire le travail par la suite? Parce que l'idée de faire les études, bon, disons, pour la plupart des personnes, c'est d'accéder à de l'emploi, se réaliser professionnellement.
Tout à fait.
Donc, c'est pas juste pour le plaisir de faire des études, simplement. Bon, pour certaines personnes, ça peut être ça, mais ils vont se réaliser juste à faire ça. Mais disons, pour une majorité d'entre nous, qu'on soit ou non handicapé, c'est de l'idée d'accéder à de l'emploi par la suite.
Alors, comment on est au niveau de l'accessibilité? Moi, j'ai vu quelques cas de figure dans les universités où je hurlais parce que j'avais des gens qui étaient en chaise roulante puis ils ne pouvaient même pas assister à la conférence que je donnais. Dans certains locaux, je tairai le nom parce que là, ça a l'air que c'est réparé, qu'ils ont fait le nécessaire. Mais je veux dire, ça c'est un exemple, OK? Commencer dans les universités, dans les cégeps, là, on parle d'adultes, là, ceux qui sont rendus à ces âges-là. Est-ce que c'est bien? Ou est-ce que c'est encore des batailles à n'en plus finir?
Je dirais que ça, c'est... Pourquoi améliorer, non seulement en termes d'accessibilité physique ou architecturale, mais par rapport aussi à des services?
Bon.
Parce que si on parle à des personnes qui ont des limitations, on peut parler des gens évidemment en fauteuil, mais d'autres types de limitations aussi qui
peuvent
avoir,
on a beaucoup.
Bon, surdité, visuelle, mais aussi d'autres types de limitations peut-être moins visibles, des troubles d'apprentissage, l'autisme, etc. Donc, il y a toutes sortes de gens maintenant qui vont collégial, universitaire, qui ont ce type de profil-là. Et c'était beaucoup de défis d'accueillir et de permettre à ces personnes-là de réussir leur scolarisation.
Mm-hmm.
On a vu depuis quelques années
une
amélioration en termes de services, en termes de soutien financier offert aux établissements pour permettre d'engager du personnel pour soutenir ces personnes-là au niveau des défis. C'est pas encore l'idéal, loin de là, mais avant ça, il n'y avait rien. Maintenant, maintenant, il y a un peu de choses. Du côté de l'accessibilité, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits du côté des universités pour essayer d'être davantage accessible. Université, collège aussi, là. Disons que de ce côté-là, le portrait est plus favorable. C'est peut-être plus difficile pour les personnes, c'est lorsqu'elles ont peu de bagages et souhaiteraient retourner, finir un secondaire 5 au niveau adulte c'est ou ça. Aller vers la formation professionnelle. Là, disons qu'il y a encore énormément de travail à faire. C'est pas évident pour des personnes de qu'ils aient accès architecturellement à des centres de formation, surtout à Montréal ou dans des villes où
Donc, il y aurait du travail là.
Il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Au niveau du secondaire, compléter ses études secondaires lorsqu'on est un adulte avec des limitations, c'est pas toujours facile en termes de soutien.
Donc,
parce
on tire la cloche d'alarme, le système, aujourd'hui. Puis on a un message à passer, ça va être celui-là. Parce que le reste, ça s'améliore. Ça
s'améliore. On a d'ailleurs produit, il y a l'année dernière, un document. Nous, si les gens sont intéressés à aller sur notre site, on verra tout le niveau de service qui est offert.
Tenez-le. Monsieur Bouchard, c'est très, très important. S'il vous plaît, l'adresse pour qu'on aille visiter
oui,
tout ça.
Oui, je laisserai. Vous pourrez, j'imagine, trouver ça sur votre site web éventuellement.
Alors, parfait. Alors, on va laisser vos coordonnées pour le CAMO. C'est important aussi de savoir qui s'occupe bien de ces choses-là, autant architecturales qu'intellectuelles, parce que c'est important. Mais il y a quand même un pas de fait, amélioration au niveau des universités. Merci, Monsieur Bouchard.
Ça m'a fait plaisir. Merci.
Nous sommes rendus à la section. Bien, quand on est maman, quand on est papa, retourner aux études, c'est triple problème. Le travail, les enfants et les études, ça fait des horaires, mesdames, messieurs, incroyables. Je sais, je suis passée par là. Ouhou! À beaucoup de congelés pendant cette période-là, des petits repas congelés. Alors, on parle tout de suite à Paula Duguay, elle est présidente de Maman va à l'école. C'est un organisme qui aide les mères monoparentales qui désirent retourner aux études et c'est notre coup de chapeau. Paula Duguay, bonjour.
Bonjour.
Quand je disais que c'est beaucoup de repas congelés, tout d'organisation, c'est de l'organisation.
Oui, et surtout quand nous sommes des mères monoparentales.
Eh oui.
Et il faut doubler la tâche, doubler la fatigue, doubler le stress, doubler les problèmes financiers et tout et tout et tout.
Alors, quelles sont les raisons à ces mères-là de retourner au travail? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Pourquoi elles veulent retourner au travail?
Je vous dirais que la première motivation pour revenir à l'école, ce sont des motifs personnels, une grande fierté par rapport à elles-mêmes, mais d'abord de la part de leurs enfants.
Ah!
Et ça traverse toutes les études.
Ah, c'est très intéressant.
C'est très intéressant. Ouais. Les mères qui, particulièrement nous, on travaille beaucoup pour les mères monoparentales, là, peu importe leur âge, afin qu'elles puissent atteindre un premier diplôme. Et toutes les mères nous disent la fierté de leurs enfants quand ils voient leur mère retourner à l'école. La fierté de ces enfants-là quand maman peut aider pour les devoirs.
Vous allez me faire pleurer.
C'est
très, très touchant parce qu'effectivement, on n'y pense pas à cette dimension-là. Et c'est quelque chose, j'imagine, de ne pas être capable d'aider son enfant puis de se dire, ben là, je vais retourner aux études.
Oui.
Je vais être capable de faire les études avec mon enfant.
C'est prioritaire au motif professionnel. Donc, l'estime de soi, on sait que pour la satisfaction personnelle, tout est là. Les mamans ont besoin d'une routine, d'une vie stable aussi. Donc, elles retournent à l'école très souvent avec le petit dernier là qui va entrer à la prématernelle à l'âge de 4 ans. Et les mamans, souvent, elles prennent cette décision-là à ce moment-là. On parle toujours des mamans monoparentales.
Oui, c'est ça. De toute façon, c'est votre organisme qui...
Exactement.
C'est les mamans monoparentales. Dites-moi, quand elles viennent dans votre bureau, qu'est-ce qu'elles vous disent?
Bien, nous, on les rencontre...
Chez elles?
Peu. On tente beaucoup, beaucoup d'innover au niveau d'un programme pour que les mamans qui sont à la maison puissent avoir accès à l'école. Okay. C'est une très grande difficulté de les rejoindre. On a beaucoup plus de facilité à aider les mamans qui sont déjà dans des institutions comme les formations générales aux adultes ou en formation professionnelle. Mm-hmm. C'est beaucoup plus facile parce qu'elles sont déjà dans des groupes. Elles sont déjà supportées par des enseignants ou par des professionnels. Mais aller chercher les mamans qui sont très souvent démunies au niveau de l'information. Donc, comment faire le lien entre la maman qui est à la maison, qui est débordée avec toute la multiplication de tâches ménagères, et comment lui expliquer, si vous voulez, comment on fait pour retourner à l'école de façon concrète? C'est là-dessus qu'on travaille actuellement.
Okay.
Donc, on est en train de construire, il y a un site vous pouvez aller le voir, c'est maman va à l'école, écrit d'un seul mot, .org.
Okay.
Et là, nous travaillons beaucoup pour faire en sorte que l'information circule bien.
Okay.
Donc, une maman pourrait aller sur le site, poser des questions, d'abord visualiser un peu, et puis nous, on se charge de revenir avec l'information.
Qu'est-ce qu'elles reprennent quand elles raccrochent ces moments-là?
Vous savez, très souvent, nous, d'abord, notre organisme, je tiens à vous dire, c'est pour aider les mamans qui n'ont pas un premier diplôme.
Okay.
Donc, on se consacre beaucoup à ce moment-ci sur les diplômes de niveau secondaire.
Donc, elles complètent leur secondaire 4 ou 5.
Elles complètent leur secondaire 3, 4, 5. Ou encore, elles prennent les préalables pour aller en formation professionnelle.
Mm-hmm.
Il faut vraiment comprendre que la formation professionnelle est une porte très importante pour des mères monoparentales. Parce qu'il y a l'accès à un diplôme qui est beaucoup plus... c'est proche.
Oui, c'est rapide.
Il y a une proximité, là.
Ouais, ouais.
Alors, quand on dit qu'on peut faire un diplôme, un DEP, dans différents domaines, avec 1350 heures de cours, ce qui veut dire un an et demi ou deux ans, bien, ça, c'est alléchant, là.
Mm-hmm.
C'est très alléchant. Donc, on travaille beaucoup à diffuser cette information-là. Puis, pour les mères qui sont à la maison, elles voient ça souvent comme une immense montagne.
Mm-hmm.
Elles n'ont pas toujours les moyens de sortir de leur maison.
Mm-hmm.
Donc, à travers Maman va à l'école, on explique aussi qu'il y a des garderies. Et d'ailleurs, dans notre mission, on a travaillé beaucoup à coordonner puis à faire la promotion de garderies qui seraient près des écoles, des éducations des adultes. Alors ça serait vraiment, pour elles d'ailleurs, c'est, quand on a fait nos enquêtes, elles nous le disent. Si je suis capable de déposer mon enfant près de mon école, bien, elle
retourne. Ça va comme ça. Écoutez, le temps nous fait la guerre. On va mettre évidemment vos coordonnées. C'est très intéressant. Vous êtes notre coup de chapeau. Merci pour Paula Duguay. Merci.
Déjà.
Oui, déjà. Merci pour ce que vous faites pour les femmes, les mères qui retournent avec leurs enfants sur le marché du travail, surtout aux études. Merci infiniment.
Alors, au plaisir.
Au plaisir. Au revoir. Alors, à mon équipe, Jean-Sébastien La Liberté à la réalisation, choix musicaux, Yannick Roberge, Claudia Benoît, qui était pour le web, et Christiane Campagna et ma recherchiste. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Bonne étude pour ceux qui retournent. À bientôt. Bye bye.